Mes frères, mes sœurs, les bien-aimés de Jésus. Ben oui, si tu es un enfant de Dieu, c'est ce que tu es. Son bien-aimé. Il y a de quoi se réjouir, hein? À sauter de joie même, je dirais. Vraiment? Bien, je crois que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, nous avons toutes les raisons de nous réjouir d'être ses bien-aimés. D'être aimés comme lui seul c'est nous aimer. Eh bien, j'espère que vous profitez du beau temps. Paraît-il que, selon le journal de Montréal, nous vivons une période chaude comme jamais auparavant, paraît-il. Moi, je n'étais pas là, moi, dès le début. Ça fait que je pense que ce qu'on me dit, et ça paraît de source bonne à part ça. Et l'été 2016 a été un été tout à fait particulier pour les Alexaniens en partie. Et je vous dis ça parce que cette année, nous avons, le 23 juin, célébré notre 60e anniversaire de mariage. On l'a fait entre moi et Loretta. Et on a été... Merci. On a été à l'Orée du Bois, on a fait un peu de choses particulières ensemble ce jour-là, c'était différent bien sûr, 60 ans de mariage. Puis on s'est dit, on s'est regardé, puis on s'est dit, déjà, ça se peut pas, déjà 60 ans. Moi on a mis le temps de mourir, hein, en 60 ans. Ben, le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a gardés. Et puis, on voulait que ce soit... Nous deux seuls, mais nos enfants, nous avons 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Le Seigneur nous a vraiment bénis avec nos petits-enfants. Ils ont voulu nous fêter pendant une semaine de temps. Et c'est ce que nous avons fait la première semaine du mois de juillet. Et j'ai une sœur aux États-Unis qui s'appelle Rachel, elle a à peu près 11 ans de moins que moi. On l'a invité à venir, à célébrer avec nous. Ils sont venus, on était plus d'une trentaine dans une pourvoirie. Et nous avons eu un temps vraiment fantastique. Alors, je ne veux pas que vous soyez jaloux, hein. Moi, je vous souhaite à chacun de vous, à chaque couple ici ce matin, je vous souhaite la même chose et mieux que ça encore. Amen. 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 Le Seigneur veut que nous ayons une vie remplie, bien-aimés. Une vie pleine. Et lorsqu'il est au milieu de nous, de ton couple, de ta famille, c'est de l'autre, je dirais, c'est en deçà du paradis, c'est un avant-goût du paradis. Et la beauté dans toute cette affaire, c'est que nous avons, Loretta et moi, on n'a rien fait. On les a simplement regardé faire. En tout cas, je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée. Cet été est en effet un été tout à fait particulier. Pour ceux qui ont prié pour Castleman, j'aimerais vous remercier à chacun de vous. Le Seigneur fait des belles choses à Castleman. Il nous a envoyé un ouvrier par miracle. Moi, je crois que c'était un miracle. J'avais dit à l'Église, nous voulons avoir une histoire à raconter et nous voulons que ce soit le Seigneur qui soit au milieu de cette histoire-là, que nous puissions dire, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et c'est le Seigneur qui a envoyé Jacques Plante de Granby à Castleman. Une semaine hier, ils ont déménagé finalement à Castleman. Le Seigneur leur a donné une maison selon leurs moyens, selon le prix qu'ils pouvaient payer, parce que c'est une région qui coûte cher. Et le Seigneur a vraiment répondu. Et Jacques m'a dit, nous avons une histoire à raconter. Et cette histoire, c'est de la part de Jésus lui-même. Donc, je vous remercie pour avoir prié pour Castleman. Il y a une belle église là, il y a un grand avenir là. Et vous savez, plus de 80% de la population est francophone dans cette région-là. Il y a vraiment de quoi à faire. Vraiment de quoi faire. Au milieu du 19e siècle, en Europe, une maman sur 6 mourait à l'accouchement dans les hôpitaux. Il y avait un médecin, par exemple, du nom de Semmelweis, un Autrichien, qui a découvert que la cause principale de cette boucherie, c'était que les médecins ne se lavaient pas les mains avant de prendre soin d'une patiente. Alors, armé d'une telle découverte, il a établi que dans son hôpital, tous les médecins devaient se laver les mains avant de prendre soin d'un patient. Un mois plus tard, dans ce même hôpital-là, une patiente sur 42 est morte. Quelque chose. Avant, c'était une patiente sur 6. Et deux mois plus tard, le taux de mortalité demeurait une patiente sur 84. Quel progrès! Alors, armé de ces chiffres-là, Semmelweis a voulu convaincre ces autres médecins-là, ses camarades, etc., de faire la même chose, de se laver les mains. Mais l'histoire est vraiment triste. C'est que, au lieu d'accepter les trouvailles de Semmelweis, ses compagnons se moquèrent de lui. Et à une conférence, une bonne fois, il a supplié ses camarades, ses compagnons dans les autres hôpitaux du pays de se laver les mains. Et il leur a dit, je vous demande rien de grandiose, je vous demande simplement de vous laver, pour l'amour de Dieu, lavez vos mains. Personne ne l'écouta. Ça nous paraît incroyable aujourd'hui, hein? Mais personne ne l'écouta. Et à l'âge de 47 ans, il est mort disgracié à part ça. J'aimerais qu'on puisse se tourner dans Jean, l'évangile de Jean. Et au chapitre 13, et à partir du verset 1. Des versets 1 à 12, j'aimerais lire ce passage-là. Jean, chapitre 13, et au verset 1, s'il vous plaît. Jean, chapitre 13, versets 1 à 12. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, de le trahir, c'est-à-dire, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre, et Simon-Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Prions Dieu. Nous courbons devant toi, Père du ciel, en ce bon jour, ce beau jour ensoleillé d'été. Ton peuple est réuni devant toi et nous voulons te bénir ce matin parce que tu es ici, Seigneur Jésus, en personne. Tu as dit que là où deux ou trois se réuniraient en ton nom, tu serais là au milieu d'eux. Et nous sommes plus que deux ou trois ce matin. Et nous savons que tu es ici au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin de te supplier de venir au milieu de nous. Nous voulons croire en toi. Nous croyons en toi. Et tu es là. Tu es là même assis à côté de nous. Tu nous vois et tu as des yeux de bonté, des yeux d'amour, des yeux de compassion. Tu es là pour marcher avec nous et nous encourager à marcher avec toi. Seigneur Jésus, que ferais-je sans toi ce matin? Que ferions-nous sans toi ce matin? Nous avons si bien chanté que tu es ici et au cœur de notre existence. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te devons tout. Merci que tu as été jusqu'à la croix pour chacun de nous. Tu as payé le prix qu'il fallait pour nous racheter, pour que nous soyons à toi et que nous soyons ici ensemble ce matin dans l'histoire de l'humanité. Quel bonheur de te connaître. Quel bonheur de savoir que tu nous as aimés. Seigneur Jésus, merci pour ton Église ici à Gatineau. Merci pour ton peuple ici à Gatineau et dans toute la région de l'Outaouais. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour la construction, nouvelle étape dans la vie de ton Église. Quel bonheur de pouvoir y participer. Et lorsque je vois le nombre de personnes qui sont engagées à te servir, à mettre la main dans la pâte et te voir au milieu de nous de façon un peu plus tangible, visible, concrète, et ça me réjouit, je te bénis. Merci pour les pasteurs que tu nous as donnés. Merci pour mon frère Normand, mon frère Gilles. Merci pour Alex, merci pour Dominique. Merci pour les anciens, merci pour les diacres. Merci pour chaque moniteur, monitrice d'école du dimanche. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Nous te bénissons. Et nous savons que tu nous réserves de belles choses dans les jours à venir. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Et Seigneur Jésus, je me tiens devant ton peuple, je me tiens devant toi. Je n'ai rien à dire vraiment. Je n'ai rien à dire vraiment. Cache-moi derrière la croix, Seigneur Jésus. Que ce soit toi qui parles. Et que ton message puisse transformer des vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus se trouve à 10 heures de la crucifixion. Il savait que bientôt il allait mourir. C'était quelques heures seulement qui le séparaient de la mort. Et il a voulu rassembler ses disciples et avoir un souper ensemble. Il avait un message particulier à leur communiquer. C'était vraiment son testament. Ses dernières paroles. Son testament. Et dans son testament, eh bien, il n'avait pas un compte en banque à léguer à ses gosses. ou bien des propriétés à distribuer. Non. Non. Il n'y avait absolument rien de matériel dans son testament. On peut résumer les paroles de Jésus entre les chapitres 13 à 18 de Jean. Résumer en deux phrases, vraiment. Demeurez en moi. Collez-vous à moi. C'était ça son testament. Demeurez en moi. Collez-vous en moi. Ça paraît simple, hein? Ça paraît simple. Pourtant, ce sont les choses les plus simples qui nous donnent des troubles, bien souvent. Qui nous donnent la misère à mettre en pratique, bien souvent. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Il y avait une chose qu'il fallait qu'il se produise avant qu'on se colle à Jésus. Qu'on demeure avec Jésus. C'est qu'il faut être propre. Il faut que le Seigneur nous purifie. Il faut que nos péchés soient lavés. Les deux apôtres arrivent dans la chambre où ce repas les attendait. Tous prennent leur place. Mais tous ont une chose en commun. Les pieds sales. Les pieds puants à part ça. Il n'y avait pas d'asphalte dans ce temps-là. Les routes n'étaient pas asphaltées. Et puis que tu portais des sandales sur des chemins poussiéreux. Donc, inévitablement, tes pieds se salissaient. Et c'était la coutume dans ce temps-là de se laver les pieds ou d'avoir l'hôte ou l'hôtesse qui te lavait les pieds avant de rentrer dans la grande salle et se réunir et participer à ce repas-là. C'était la coutume. Mais on dirait que personne s'était préoccupé à savoir qui allait laver les pieds en entrant dans la salle. Chacun entre, s'assoit. Comme si ce n'était rien. Comme si tout allait bien. Comme si c'était dans le décor des choses. Personne bouge. Je ne sais pas si leur nez était habitué à sentir mauvais, mais en tout cas, personne bouge. Personne prend l'initiative. Qui allait vraiment se lever et laver les pieds? C'est Jésus. Jésus se lave de table. Il ôte sa tunique, prit une serviette de lin qui se noua autour de la table. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine, commença à laver les pieds de ses gars, de ses disciples. Puis il les essuie avec une serviette. Le bavardage cesse. C'est le silence de honte. Chacun se sent orgueilleux. J'ai l'impression même cheap au fond. Pierre, le chef de file, est bouche cousue. C'est le silence. Bientôt, Jésus arrive auprès de Pierre. Il proteste. Il est gêné. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » En bon québécois, il dit « Pantoute !» Il ne veut rien savoir. Mais Jésus lui répondit au verset 8, « Si je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi. » Avant de venir à Jésus-Christ, chacun de nous, avant de venir à Jésus-Christ, nous étions tous trempés dans de la boue. Tous, sans exception, même le meilleur d'entre nous. C'est dans la boue que le Seigneur nous a trouvés puis nous a sortis. On sentait mauvais, mais on ne sentait pas nous-mêmes mauvais, bien sûr. Bien sûr. Mais aux yeux de Dieu, aux narines du sauveur, c'était une autre affaire. Le Dieu, trois fois saint, nous a vus dans notre état dégoûtant. Et c'est là qu'il est venu nous chercher, pour nous en sortir de cette boue-là. Aujourd'hui, je me demande comment le Seigneur pouvait m'aimer dans cet état-là. C'est vrai. Si tu as moindrement compris l'Évangile, si tu as moindrement compris la personne de la sainteté de Dieu, à quel point le péché est sale et répugnant à ses yeux et à ses narines, tu te dis, mais comment le Seigneur Jésus a fait pour m'aimer? La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a aimés. Il a mis le comble à son amour, nous avons lu au début, verset 1. Le comble à son amour. Il a tout déversé sur nous lorsqu'il nous a sauvés. Donc, quand le Seigneur m'a donné la grâce de croire en lui, et de me confier en lui, de croire qu'il a donné sa vie pour moi à la croix, et qu'il a tout payé là pour moi à la croix, eh bien, je me souviendrai comme aujourd'hui. La joie et le bonheur qui m'a envahi, c'est très difficile à exprimer. On a tous des expériences différentes, je suis très très conscient. Hein. Mais quand le Seigneur m'a sauvé, je n'irai pas dans l'histoire, mais c'était magnifique. C'est comme s'il m'avait passé dans un tourbillon, un bain tourbillon. Il m'a lavé, il m'a rendu propre, comme lui il est. Une des choses que nous savons, quand les soldats retournent du front, quand les soldats sont retirés du champ de bataille après plusieurs jours de combat, qu'est-ce qu'ils demandent, pensez-vous? Un bon repas? Non, non. Non, non. Qu'est-ce qu'ils demandent? Retourner chez eux? Non, non. Le sexe? Non, non. Ce qu'ils demandent, c'est une bonne douche, se laver, se rendre propre. C'est la première requête qu'ils ont. Où est-ce que je peux aller me prendre une douche après peut-être une semaine, deux semaines, un mois dans le champ de bataille? Il veut être propre. Maintenant, une fois que j'entends l'Évangile, que nous entendons l'Évangile, l'Esprit de Dieu ouvre notre cœur. Jésus vient dans notre vie. Tu deviens une nouvelle créature. Et au même instant, Jésus nous lave, nous fait passer par un bain et enlève toutes les crasses, tous les péchés. Il nous lave de tout cela et nous rend digne du ciel, bien sûr. Il nous rend digne de la vie éternelle, bien sûr. Mais dans notre histoire ici, ce n'est pas une question de prendre un bain. Ce n'est pas une question d'être sauvé une deuxième fois ou une troisième fois, etc. Non, non. C'est une question de rester propre. C'est ça la question dans notre histoire. Comment rester propre? Comment rester propre? Jésus a dit au verset 10, celui qui est baigné, c'est-à-dire qui a passé par le bain de la nouvelle naissance, eh bien, n'a pas besoin de se laver. Il n'a pas besoin de prendre un autre bain. il a simplement besoin de se faire laver les pieds pour être entièrement pur. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est que une fois que j'ai pris mon bain du salut, je n'ai pas besoin d'une deuxième fois ce genre de bain-là. Non. On est né de Dieu une fois pour toutes. Et la chose est réglée entre le pécheur qui est régénéré et son Dieu. Mais il faut se faire laver les pieds. Nos pieds se salissent. Les pieds des apôtres étaient sales. Ils avaient besoin d'être lavés. Et Pierre ne comprenait pas ça. Pourquoi Jésus était là pour laver ses pieds? Il ne comprenait pas ça. Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. Quel était le problème de l'apôtre Pierre, pensez-vous? Il se sentait humilié. Il se sentait humilié. Il était le leader du groupe, il aurait dû montrer l'exemple. Il ne l'a pas fait. Et j'ai l'impression que Pierre est même fâché contre lui-même parce qu'il a échappé à une belle occasion. Il était vexé que Jésus avait pris sa place. Et au lieu de s'humilier et d'admettre son erreur, Pierre s'obstine avec Jésus. Non, tu ne me laveras pas les pieds. C'est un peu comme nous, ça. Quand tu fais une gaffe, quand tu as erré quelque part, et tu le sais, c'est donc dur d'accepter que tu as fait une gaffe. C'est pas vrai? On est tous dans la même barque, là. On est tous pareils, là. On fait des gaffes et on ne veut pas les reconnaître. Et on ne veut pas s'humilier à dire « j'ai gaffé, j'ai péché, j'ai mal fait ». C'est un peu comme le fils prodigue lorsqu'il est parti de son père, de sa famille, il est parti comme une personne qui s'entête, qui s'endurcit, qui s'enorgueillit et qui s'en va seul. Et qu'est-ce qu'il attendait, pensez-vous? C'était une série de tempêtes dans sa vie. Et la leçon ici pour nous, bien-aimés, c'est que dans la vie chrétienne, on va se salir les pieds. Dans la vie chrétienne, j'aurais beau essayer de me tenir sur la pointe des pieds pour éviter même de pécher. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éviter de pécher. Mais on dirait qu'on le veut ou non. Il y a toujours de la boue qui s'éclabousse contre nous. Les pressions du monde, leur influence, notre corps, ce corps merveilleux que le Seigneur nous a donné, et ses appétits finissent par nous contaminer. Moi, je viens d'une famille chrétienne, très protégée même. Et mon témoignage n'est pas extraordinaire, laissez-moi vous dire. Mon histoire n'a rien à vous garder sur le bord de votre chaise. Écoutez. Mon témoignage se limite à vous dire que quand je regarde la vie que j'ai menée quoi, au début, c'est que le Seigneur m'a protégé, m'a empêché de me vautrer dans toutes sortes de choses. J'avais 19 ans, moi, quand j'ai quitté chez moi en France. Et j'ai été aux États-Unis dans le but de faire de l'argent, faire la belle vie, etc. J'avais un père qui était très sévère, qui m'étouffait quasiment. Et je me sentais vrai, que j'allais pas vraiment être libre, m'émanciper, trouver une vie pour moi. Alors je suis parti. Je suis parti pour goûter tout ce que le monde pouvait me donner. Hein? Après une année aux États-Unis, le Seigneur m'a envahi. Jésus-Christ m'a envahi. Et maintenant, avant ma conversion, mentir, fréquenter les tavernes, les boîtes de nuit, lire les magazines porno, ne gênait pas ma conscience. De plus, j'avais beaucoup de haine envers les Allemands, parce qu'on était occupé par Hitler pendant 50 ans. Hein. Et j'avais beaucoup d'amertume et de haine envers les Turcs aussi, parce que mes grands-parents avaient été massacrés par eux. Alors, mais la pire des choses, c'est que jaillissait mon père. Et ça ne me quittait jamais, ça. À ma conversion, le Seigneur a fait une merveille. Hein. Presque du jour au lendemain, j'ai cessé de mentir. J'étais un homme d'affaires dans ce temps-là. J'avais une boutique de nettoyage à vêtements. Et avec mes clients, etc., si on pouvait passer une rapide, là, quelque chose de rapide, je ne manquais pas mon coup. Et, mais le Seigneur a enlevé ça après ma conversion. Et puis, il m'a enlevé aussi les tavernes, les magazines, etc. Et, vraiment, un vrai changement. À un point où que j'avais un copain marseillais et on faisait des petites choses ensemble, quoi, dans le temps libre. Bonjour, il me dit, Jacques, je ne te comprends plus. Qu'est-ce qui se passe en toi? Tu n'es plus le même. Je ne m'étais même pas rendu compte. C'était le Seigneur qui travaillait dans ma vie, voyez-vous. Et il a enlevé de ma vie des gros morceaux au début de ma vie chrétienne. Par contre, mon amertume envers les Allemands restait, et puis les Turcs restaient aussi. Et puis mon amertume envers mon père restait. Et mon amour pour l'argent était toujours là. Était toujours là. Et je me souviendrai toujours en 1956, en 1966 plutôt. Ça faisait 3 ans que nous étions à Sherbrooke, comme missionnaire pasteur là-bas, à l'église de Sherbrooke. Nous avions épargner 3 000 $ avec un salaire de missionnaire, c'était tout un exploit. Bon, je venais d'une famille où on épargnait l'argent vraiment, hein. Et puis j'étais habitué à ça et merci Seigneur, on aurait été pareil. Alors, on n'était pas des gaspilleurs d'argent, etc. 3 000 $. Dans ce temps-là, 3 000 $, c'était pas mal d'argent. En 1966, si tu voulais acheter une maison, c'était entre 10 000 et 15 000. Ça fait que 3 000, hein, c'était pas une petite somme. Même aujourd'hui, on pourrait dire que c'était pas une petite somme. Hein. Puis quelqu'un nous arrive, puis nous vend une vraie salade. Et si nous investissions cet argent-là, là, on allait récolter des gains alléchants. Et très vite, à part ça, j'ai vidé notre caisse d'épargne. Et en 3 jours, j'apprends que j'ai tout perdu. Oh là là! Tout perdu en 3 jours! Le Seigneur ne chômait pas dans ma vie. Hein. Il a utilisé ce détail dans ma vie pour m'envoyer un petit message. Jacques, prends soin de mes affaires. moi, je prendrai soin de toi. Je savais que le Seigneur m'avait humilié, là. Mais savez-vous quoi? Je remercie le Seigneur aujourd'hui qu'il m'a humilié de cette façon-là. Sais-tu, bien-aimé, tu n'as pas besoin de demander au Seigneur de t'humilier. Tu n'as pas besoin de lui demander. Il y a cette chose dans ta vie. Il y a cette gaffe que tu commets dans ta vie. Premièrement. Le mariage, la vie de couple, si ce n'est pas une humiliation après une autre humiliation, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est pas le Seigneur qui est en train de t'humilier, là. C'est à cause de tes gaffes. C'est à cause de tes bêtises. À cause du fait que tu ne veux pas vraiment écouter ta femme ou bien écouter ton mari. Ou bien tu veux pas changer. Tu veux la changer. Moi, je voulais changer Loretta. Savez-vous, j'ai frappé des murs. Et ça faisait mal. Ça faisait mal. Et je respectais parce que le Seigneur, on dirait qu'il ne pavait pas mon chemin comme je voulais. Mais c'était moi. C'était moi. Je me mettais dans les troubles. Hein, c'était moi. Ça fait que je n'avais pas besoin de demander au Seigneur de m'humilier. Hein. Non, non. J'avais un ami qui s'appelait Fred. Il aimerait me rappeler souvent. Il dit, Jacques, si tu veux que le Seigneur t'utilise, là, attends-toi à ce qu'il t'humilie. Et il utilisait l'histoire de Jésus qui a nourri à peu près 15 000 personnes, hommes, femmes et enfants mis ensemble, hein, et où Jésus se trouvait dans un lieu désert, la foule était là, et puis toute la journée il enseigne, il prend soin du peuple qui se trouve là, et l'après-midi arrive, le temps passe, les disciples voient que bientôt ce sera la fin de la journée, et puis il dit à Jésus, envoie-les, Jésus leur dit, on ne peut pas les envoyer, il n'y a pas de magasin autour, c'est loin, les villages sont loin, etc. Alors, nourrissez-les, mais nourrir avec quoi? Ils n'avaient rien. Finalement, ils trouvent 5 pains et 2 poissons. Ils donnent à Jésus. Et Fred aimait utiliser cette illustration-là pour moi. C'était mon mentor dans ce temps-là. J'avais à peu près 22, 23 ans. Et il me disait, regarde ce que Jésus a fait. Il a pris les pains. Il était heureux, il était reconnaissant d'avoir pris ces pains-là. Et après avoir rendu grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il les rompit, il les brisa. Il les brisa. Il ne pouvait pas multiplier les pains avant de les briser. Et il m'a dit ça plusieurs fois. Jacques, si tu veux que le Seigneur t'utilise, attends-toi à ce qu'il te brise. Attends-toi à ce qu'il te brise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le Seigneur va trouver des moyens pour nous passer son message. Il va trouver des moyens. Et bien souvent, il utilise nos bêtises, nos erreurs, pour nous apprendre des leçons qui sont précieuses. S'il y a une chose que la parole de Dieu nous enseigne, que Jésus n'est pas venu pour nous juger, nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Et lorsque l'Esprit de Dieu est venu, lui aussi, il n'est pas venu pour nous juger, nous condamner. Mais il est venu pour nous convaincre de nos péchés. Pour nous convaincre qu'on a les pieds sales. Et si je suis conscient que mes pieds sont sales, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, au lieu de m'obstiner avec Jésus, la leçon c'est, laisse-toi, Jésus, laver tes pieds. Laisse Jésus laver tes pieds. Lorsque l'Esprit de Dieu te convainc, ce mot-là est très précieux. Est très, très précieux. Et dans Jean chapitre 16, verset 8, quand l'Esprit de Dieu sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En somme, ce que l'Esprit de Dieu fait en nous convaincant, il nous dit la vérité. Il nous dit la vérité. Il nous dit, par exemple, si tu as menti, il va te dire, t'as menti. Reconnais-le. Et il va te dire aussi quel était le mensonge. Pas simplement j'ai menti, mais quel était le mensonge. Avoue-le. Reconnais-le. Reconnais-le. Et lève-toi. Et reçois son pardon. Si je vois une belle voiture, par exemple, et que je la convoite, j'ai fait ça souvent, malheureusement. Regarder une belle voiture, c'est pas ça le mal. C'est pas ça péché. C'est convoiter, vouloir avoir, et prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. C'est ça convoiter. Alors si je convoite une belle voiture, bien l'Esprit de Dieu me dira, Jacques, t'as convoité, t'as péché. Il ne me dira pas pourquoi convoites-tu? Pourquoi as-tu convoité? Il ne me dira pas, l'Esprit de Dieu ne me dira pas parce que j'ai convoité, c'est la dernière fois que je vais te pardonner. Alors, il ne me dira pas ce genre de choses. Tout ce qu'il me dira, c'est Jacques, confesse, admets-le, repens-toi. Et l'Esprit de Dieu va me conduire à Jésus et son sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Et si je parlais, disons, en mal de quelqu'un, l'Esprit de Dieu me dira gentiment, Jean, tu viens de dénigrer ton frère ou ta sœur. Confesse. Confesse ce que tu as pensé, ce que tu as dit au sujet de ton frère et ta sœur. Et admets-le et repente-toi. Et lorsque je reçois cette parole de l'Esprit de Dieu, je ne sais pas pour toi, mais je peux dire que ça m'arrive assez souvent où cette petite voix intérieure m'interpelle. Cette petite voix douce, aimante, m'interpelle. Et une des choses que j'ai apprises à travers les années, c'est d'écouter cette voix-là. Ne pas l'éteindre, cette voix-là. Bien-aimé, c'est vraiment une grâce de Dieu qu'une fois que tu viens à Jésus, une fois que tu passes par le bain de la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient en toi. C'est une des plus grandes preuves que tu es sauvé. Elle a son ministère. Plusieurs ministères, mais un des ministères les plus précieux, c'est de m'accompagner dans ma vie chrétienne. Et d'être ce moniteur-là, là, qui m'avertit lorsque je déraille. Et comme je disais tout à l'heure, le monde avec ses attraits, notre corps avec ses appétits, nous lâche pas, hein, nous lâche pas. Et qui peut dire que moi jamais je me laisserai tenter, je ne convoiterai pas, je ne pécherai pas. Qui oserait se lever et dire ça ce matin parmi vous? Personne. Cette petite voix intérieure, bien-aimée, écoute-la. C'est la voix de ton bien-aimé, ça. C'est la voix de ton sauveur, ça. C'est la voix de ton avocat, ça. Chéris cette voix-là. Écoute cette voix-là. Et si cette voix te dit « t'as péché », eh bien, confesse, admets-le. Repente-toi. Et va chercher Jésus qui est prêt à te laver de tous tes péchés. Sais-tu quoi? Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'en Australie pour essayer de trouver s'il y a un péché, l'aide en profond de mon cœur, etc. Tu n'as pas besoin de faire ça. Au contraire, si tu commences à faire ça, tu vas tomber dans le chemin de la lamentation. C'est une des choses que le Seigneur ne veut pas, c'est que tu passes ton temps à te lamenter. « Oh, je suis un pécheur, je suis... » Non. Une fois que Jésus a lavé les pieds des disciples, il n'a pas continué à les rabrouer. Alors dit toutes sortes de choses, les culpabiliser. Non. Une fois que tes pieds sont lavés, tu es propre. Tu continues sur ton chemin. Moi, ce que je trouve parmi les chrétiens, c'est que, surtout lorsqu'on parle de péché, de la vie chrétienne, de la sanctification, etc., là, on commence à chercher les bébites dans notre vie personnelle. Ne t'en fais pas. Écoute l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et peut-être que l'Esprit de Dieu va envoyer quelqu'un te voir et puis te dire, sais-tu, t'as déraillé là. C'était une parole de trop là. Hein? L'Esprit de Dieu peut utiliser aussi un frère et une sœur dans ce sens-là. Et au lieu de te fâcher, d'écouter. Moi, je ne vois pas la lamentation dans la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de lui demander, sonde mon cœur, vois si je suis dans la bonne voie, etc. Et puis passer mon temps à dire ces choses-là, etc. Pas besoin. J'ai l'Esprit de Dieu maintenant qui me parle avec douceur, avec amour. Et il veut mon bonheur. Il ne veut pas que je me lamente puis que je suis en train de pleurer tout le temps, etc. Non. Il veut que je me relève avec un sourire et je reprends mon chemin et je suis le Seigneur Jésus. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. As-tu les pieds propres ce matin? As-tu les pieds sales ce matin? L'Esprit de Dieu veut te le dire, hein? J'ai pas besoin de le dire. L'Esprit de Dieu va te le dire. Et si l'Esprit de Dieu te dit, si l'Esprit de Dieu me disait maintenant, disons à Jacques, tes pieds sont sales, ou disons ce matin, je me suis disputé avec mon épouse, et puis on est partis tous les deux, là, un peu à l'envers, ce qui arrive souvent, dimanche matin avant le culte, malheureusement. Ça veut dire que tes pieds sont sales. Tu as besoin que Jésus les lave. Tu as besoin d'écouter l'Esprit de Dieu qui te dit, ma fille, mon fils, tu as besoin que tes pieds soient lavés. Admets que tu as gaffé. Confesse. Repends-toi. Demande pardon à ta femme, à ton enfant ou à ton mari. Lève-toi. Parce que lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Ce matin, ma prière, c'est que nous soyons à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et trouver la joie de vivre. La joie de vivre. Le plus grand bonheur, c'est de marcher avec Jésus. Il y avait dans le journal de Montréal, ici avec les Olympiques, la seule clé du bonheur, une médaille. Bon, combien de temps ça dure ce genre de bonheur-là? Pas longtemps. Mais vraiment, la clé du bonheur, c'est Jésus qui nous lave de nos péchés. C'est Jésus qui pardonne. Et c'est Jésus qui est toujours le même à nous accueillir et à nous bénir, et non pas prendre son temps à nous juger et nous condamner et nous culpabiliser. Père du ciel, quel bonheur de savoir que Jésus est toujours prêt à laver nos pieds sales. Merci Seigneur Jésus, que dans ta sagesse, tu nous enseignes ces choses-là. Tu nous as laissé cet héritage-là. Quel bonheur de te connaître. Merci que tu es ici parmi nous. Merci que tu es réel, tu es vrai encore aujourd'hui. À toi la gloire. Bénis ton peuple. Amen.